Ce dont nous allons parler, c'est-à-dire des archives du spectacle et de la genèse de ce spectacle, de la genèse du texte, s'inscrit dans le droit fil de ce qu'ont dit Hélène et Ariane tout à l'heure. Et elles nous ont appris des choses que nous ne voyions pas toujours dans les manuscrits, mais dans les manuscrits, dans les archives du Théâtre du Soleil, nous voyons aussi un certain nombre de données que nous allons vous faire partager par quelques images. Donc les deux départements que nous représentons sont tous les deux abrités sur le site Richelieu, donc dans le second arrondissement de Paris, et ils conservent des collections qui à la fois sont proches, surtout pour ce qui nous concerne le Théâtre du Soleil et les archives de l'Institut, mais un petit peu différentes par leur histoire. Le département des manuscrits est un département très ancien, un des plus anciens de l'ABN. Le département des arts du spectacle est beaucoup plus récent de date de création. Alors, on a essayé de faire un PowerPoint qui, pour l'instant, est un peu tremblotant. Voilà, il vibre, il vit. J'espère que l'image va s'apaiser, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer des exemples d'archives comme ça. Le département des manuscrits, donc, si vous apercevez dans le tremblotement, conserve des manuscrits anciens, des manuscrits orientaux, des manuscrits modernes et contemporains, donc tout le panorama en quelque sorte de la littérature des trois derniers siècles peut se refléter dans les collections, et nous conservons également des manuscrits d'écrivains vivants, dont le fond Hélène Cixous. Hélène nous a fait la confiance de nous donner dès le début de ce siècle les manuscrits de ses œuvres, et régulièrement, de saison en saison, le fond s'accroît de tous les livres qu'écrit Hélène. Ce fond est classé selon les différents genres qu'elle a abordés, fiction, théâtre, essai, enseignement. Les manuscrits donc dramatiques, ils sont présents. Les manuscrits de théâtre, ils sont présents. Ceux qu'elle a écrits en dehors du Théâtre du Soleil, ceux qu'elle a écrits pour le Théâtre du Soleil, et en particulier le manuscrit de Cyanide, qui est un des plus imposants, ne serait-ce que par la taille, puisqu'il occupe une quinzaine de boîtes d'archives, ce qui représente à peu près 7000 feuillets, ce qui est évidemment énorme, des manuscrits, des copies de manuscrits, des dactylographies. Dans son entretien avec Fabienne Pascot, Ariane Mouchetine explique que Hélène a énormément travaillé, dit-elle, et que finalement le théâtre n'a conservé qu'un quart de ce qu'elle avait écrit. J'ai l'impression que la proportion est encore moindre quand on voit les notes de lecture, les brouillons, les différences de points, etc. Donc c'est ce que nous allons regarder petit à petit. Je vais laisser la parole à Joël Garcia, qui va vous présenter rapidement si les images se stabilisent un peu. Ah. Le département des arts du spectacle, dont les collections évidemment ne peuvent qu'intéresser le monde du théâtre. Et puis ensuite, nous allons passer en revue les différents types de documents qui se retrouvent dans les archives communes, donc des arts du spectacle et des manuscrits, et étudier donc les différents moments de la genèse de la représentation et ensuite de sa réception. Et dans la genèse de la représentation, la genèse du texte d'Hélène Cixous occupe évidemment une place importante, essentielle. C'est vrai qu'une partie de notre...
Alors, une partie de mon texte se trouve sur les images. Je suis un peu l'afficher. C'est vrai que c'est encore mieux. Mais en attendant, donc Marie-Odile vient vous présenter le département des manuscrits et le travail du manuscrit sur le texte dramatique qui laisse des traces. Ensuite, se pose la question de la trace que peut laisser le spectacle vivant, qui par nature est éphémère, et bien évidemment le décalage qu'il peut y avoir entre ce qui s'est réellement passé pendant la création d'un spectacle et ce qui s'est réellement passé sur les planches lors de la création, lors des tournées, voire éventuellement de reprises. Alors, avoir un département des arts du spectacle dans une bibliothèque nationale, c'est déjà pas évident. On me dit si souvent, mais vous ne conservez que des livres ou des manuscrits. Ma petite diapositive avait pour but de vous expliquer que le spectacle génère en fait des traces tout à fait importantes que l'on va, donc on espère pouvoir vous montrer des images dans les minutes qui suivent, et que le département des arts du spectacle est un département qui est à la croisée d'un centre d'archives, d'une bibliothèque, d'un centre de documentation et même d'un musée. puisque nous pouvons aussi bien conserver des costumes et des accessoires. Le spectacle Lidon, donc la représentation éphémère, laisse bel et bien des traces. Pourquoi les avoir collectées ? Aujourd'hui, ça paraît évident que tout ce qui se passe sur le plateau fait partie de notre patrimoine, fait partie de l'histoire, hein, et alimente aussi l'histoire à venir. C'était pas si évident autrefois, ça l'est plus évident en France que dans d'autres pays. Et si le département des arts du spectacle existe aujourd'hui, c'est grâce à un ancien collectionneur qui, à la fin du 19e siècle, a décidé non seulement de conserver tout ce qui était du texte dramatique qui rendait compte des spectacles, mais aussi de toutes les formes dans lesquelles ces spectacles éphémères s'incarnaient. Donc ce collectionneur a constitué une très très grande collection. Et il était aussi très ami avec les gens de théâtre, hein, et il leur a dit confiez-moi vos archives, hein, comme ça ensemble nous écrirons l'histoire du spectacle. Et si cette position très novatrice du spectacle de la part d'un amateur au 19e siècle, c'est aussi cette vision que le département des arts du spectacle porte aujourd'hui. Et c'est pourquoi, depuis 2007, le Théâtre du Soleil nous a confié la conservation et la communication de leurs archives. Alors, depuis 2007, donc ça commence en 2007 et ça continue encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les archives, le Théâtre du Soleil, en fait, au travers de ses multiples créations, a conservé une multitude de traces. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler en boîte, hein, mais je ne sais pas si là pour le coup c'est quand on met dans des boîtes des manuscrits, des éléments de décor, des poupées, des costumes, des programmes de la presse, mais on peut, pour vous donner une idée de Sianouk, donc si on essaie de réfléchir en boîte, on a à peu près 200 à 250 boîtes d'archives rien que sur le spectacle de Sianouk. Donc vous imaginez, depuis la création du Théâtre du Soleil, tout ce volume, donc qui est toujours en cours de classement, peut être présent chez nous. Donc on va vous montrer quelques images, en fait, qui permettent d'indiquer au fur et à mesure comment ces traces se matérialisent dans les archives du département des arts du spectacle et deviennent un matériau eux-mêmes pour l'histoire du spectacle, mais comme vous l'avez compris par tout ce qu'on s'est déjà dit ce matin, bien au-delà de l'histoire du théâtre. Donc le fond du Théâtre du Soleil, donc nous, alors du coup, on compte en mètres linéaires puisqu'on met nos boîtes les unes à côté des autres, et en fait, voilà, il y en a à peu près 30 à 40 mètres linéaires dans les collections, et le théâtre nous en confie très régulièrement. Ce fond du Théâtre du Soleil, ces archives, donc, vont documenter la conception de chaque œuvre. La documentation, dont on commence à avoir déjà parlé, l'élaboration du texte, le travail sur le plateau, mais aussi la représentation. La représentation telle qu'elle a été construite dans l'espace, et comment est-ce qu'elle va se dérouler en fait, au fur et à mesure des soirées. Donc des plans décors, des conduites, des maquettes, des costumes, un travail sur la musique de scène, des photographies, des tous des programmes, on va vous montrer tout ça. Aussi la réception auprès du public, des coupures de presse, des lettres, des études que génère le spectacle, et dans ces archives qui documentent non seulement l'histoire du théâtre, du soleil, l'histoire du spectacle vivant, mais aussi bien au-delà, l'histoire du combat, l'histoire de l'art, comme on en a parlé ce matin. Voilà. Ça y est, j'ai raccroché ma présentation. Marie-Odile et moi, on part du début, à savoir de la création du spectacle. Et là, en fait, je vous montre à peine quelques exemples de la formidable documentation rassemblée par Ariel Mouchkine, Hélène Sixou, les comédiens. On trouve vraiment de tout, aussi bien, donc évidemment, le livre des souvenirs de Sianouk, les souvenirs d'une mère, ou bien le calice où elle a lu. On va trouver aussi donc, les écrits, les bulletins politiques des différentes parties prenantes. On va trouver aussi un exemplaire, par exemple, de la thèse de Pieux-Sempan qui a été soutenue en 1959 à l'Université de Paris donc sa thèse sur l'économie du Cambodge et ses problèmes d'industrialisation. Vous vous souvenez, dans la première scène, qu'il est diplômé de l'Université de Paris et qu'il est un économiste. Donc on voit que le théâtre du Soleil s'est vraiment procuré tous les documents possibles. Évidemment, à côté de la production des acteurs, donc de l'histoire eux-mêmes, il y a aussi donc une documentation sur la presse. On a une très très belle revue de presse dans les grands quotidiens français de tout ce qui s'est passé, de tous les événements du Cambodge concernant en fait la période du spectacle et après, mais aussi bien des articles ou des ouvrages concernant les arts du spectacle au Cambodge, du théâtre cambodgien d'Adhémar Leclerc en 1911, jusque donc aux très nombreux articles de Marie-Alexandrine Martin, dont vous avez entendu parler également ce matin. Et on voit aussi que tous les aspects de la question sont documentés. Et on voit aussi une attention non seulement à l'histoire du Cambodge, mais à cette véritable actualité. Et cette documentation, en fait, qui existe dans les archives avant la création du spectacle, pendant la création du spectacle, se poursuit ensuite. Donc on voit une attention continue à tous les aspects de la situation cambodgienne et de ses rapports politiques avec la France et les autres pays. Évidemment, l'écriture du texte. Alors, pour reprendre donc la formule des articles sous, le texte s'écrit et il va passer par l'immense tamis vivant du jeu et de la mise en scène. Mais d'abord, passer au texte. Donc, on nous disait tout à l'heure que Arlene Chin et Hélène Tixou avaient travaillé ensemble et Hélène Tixou écrivant le texte. Là, je vous ai juste montré à titre d'illustration de cette osmose dans le travail une page d'un carnet où l'on voit donc l'écriture d'Arlene Chin et les notes d'Hélène Tixou en dessous. Je ne sais pas si vous voulez apporter une autre remarque sur ces pages. Mais évidemment, l'écriture du texte, elle est essentiellement présente dans le fond et la discussion. Donc, on va vous parler, Marie-Odile.
Voilà. Donc, la genèse du texte d'Hélène Tixou prend place, en fait, dans la genèse de la représentation théâtrale. Elle est au départ, elle est essentielle. Je vais peut-être même être obligée de revenir à l'étape de la documentation, puisque toute la documentation qui est réunie dans les archives du Théâtre du Soleil a servi à l'auteur au premier chef, comme elle servira ensuite au metteur en scène et aux acteurs. Dans le fond, Hélène Tixou, il y a assez peu de documents extérieurs, c'est-à-dire des livres, etc. Il y a essentiellement des coupures de presse, quelques photocopies, et puis surtout des listes de bibliographies très impressionnantes qui reflètent l'énorme travail de lecture, d'études, de recherche, d'analyse qui a été nécessaire, qui a été préalable à ce projet un petit peu fou, enfin terriblement ambitieux, d'écrire une histoire qui n'était pas encore vraiment écrite. Dans le fond lui-même, il y a donc essentiellement des notes de lecture à partir de toute cette documentation, des notes de lecture qu'on retrouve dans des blocs-notes, dans des carnets ou disséminées dans les manuscrits, et puis un second type de notes un peu plus rares qui sont des notes d'enquête, de prise d'entretien sur le terrain, d'entrevues qui datent sans doute du voyage dont Hélène Tixou et Ariane Mouchry nous ont parlé, du voyage en Thaïlande de 1984 au bord de l'abîme, à la frontière. Voilà, ce bloc-notes intitulé Kampuchea, alors c'est assez difficile à voir, mais il y a trois petits feuillets qui sont en fait le résultat d'un entretien sans doute pris à Bangkok, puisque le papier est en tête d'un hôtel de Bangkok, donc de l'époque du voyage en Thaïlande. Donc des notes prises sur le vif, en quelque sorte. Hélène nous a dit qu'il y avait des entretiens aussi nombreux avec les Cambodgiens de réfugiés en France. Et puis, c'est l'image suivante, qui n'est peut-être pas très claire, c'est moi qu'on puisse dire, j'ai voulu montrer en fait l'intrication des notes de lecture. Là, il y a en fait quatre feuillets, mais qu'on discerne mal, qui sont placés dans une chemise intitulée Manak, du nom de l'ambassadeur de France au Cambodge, qui a également écrit des ouvrages sur le Cambodge, qui ont été utilisés par Hélène Tixou pour l'établissement de la chronologie. Et donc il y a à la fois, alors c'est pas très clair malheureusement, des notes donc, de référence à cet ouvrage avec la pagination, donc c'est un vrai travail d'historien, entre guillemets, donc vraiment un travail de recherche, et puis des notes à propos d'un entretien paru dans le New York Times, etc. Et donc tout cela est imbriqué, existe dans le texte, accompagne l'écriture du texte, la précède aussi, et les frontières sont parfois poreuses entre les notes de lecture, les notes d'écoute des témoignages, et puis les premiers moments de l'écriture. Lorsqu'on écoute Hélène Cixous nous parler de la jeunesse de son texte, on découvre immédiatement des choses qu'on ne voit pas toujours dans les manuscrits. Les manuscrits, il n'y a que des traces, que des signes qu'il faut interpréter, donc parfois on les interprète mal. Par exemple, j'ignorais tout à fait que Hélène Cixous avait commencé à écrire avec les noms réels en pensant qu'ils allaient disparaître. Je me disais non. Donc ça, c'est quelque chose que finalement le témoignage de l'auteur ajoute évidemment au regard des manuscrits. Mais les manuscrits nous racontent aussi quelque chose, précisent des dates, précisent des moments. Et donc, nous allons passer à l'image suivante, qui n'est pas beaucoup plus lisible, malheureusement, je suis désolée. L'image suivante, c'est une image qui montre une des premières scènes où apparaît un personnage. Le personnage de Cyric Matak, donc le héros tragique aussi et haineux de Sihanouk. Et l'on sait qu'il y a quelque chose dans l'écriture de théâtre qui est très nouveau pour Hélène, c'est la dépossession de soi, c'est la possession par les personnages. Elle le dit dans un très beau texte, en expliquant qu'elle s'est sentie tout d'un coup envahie par tout un peuple. Et ces dizaines de personnages qui apparaissent, qui vont peupler la scène, c'est finalement eux, à la naissance de ces personnages, que l'on va assister de page en page, de scène en scène. Là, donc, c'est les premières répliques de Cyric Matak. Et il y a, alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a, parce que c'est pas très lisible. Il y a une petite notule en travers, qui est une sorte de commentaire de l'auteur sur sa scène, comme si l'auteur jugeait la prestation de son personnage. Et elle dit, Cyric, encore trop carré, dès l'acte 1, donnait sa clé. Et on se rappelle cette nécessité de l'urgence, de l'absence de détour, qui est le propre du théâtre. Tout doit se faire rapidement, à la différence de l'écriture intime. Tout doit être visible dès la première apparition sur la scène. Et ça, c'est une des nécessités de l'écriture théâtrale que Hélène Cixous va adopter, va assumer dans la création de Sihanouk. Alors là, c'est une page, il y en a, je vous ai dit, 7000. Et de manuscrits à proprement parler, il y en a bien 2000 ou 3000. Donc c'est vraiment un travail colossal. L'image suivante, un tout petit peu plus claire, mais pas encore tellement, montre un des plans de l'œuvre de Sihanouk, un des plans en travail, en élaboration, en ébullition, j'allais dire. L'un des problèmes pour Hélène, après la documentation, après cette sorte de possession par les personnages, c'est un problème d'ordre architectural. Il faut construire une pièce qui est immense, et qui est à la fois le récit, un récit véridique, historique, et puis le dévoilement des passions. Et cette pièce immense, elle va s'articuler en une série de scènes, en une série d'actes, qui vont être ponctués par des coups d'éclat, par des coups de théâtre, et qui sont éclatés en plus entre plusieurs lieux. Donc il est nécessaire pour l'auteur d'avoir recours à ces plans qui lui permettent de cadrer son histoire, et puis les plans évoluent en même temps que le récit évolue. Là, c'est un plan de l'acte 2, où la numérotation des scènes, ça on le voit peut-être, n'est pas encore très claire, donc il va y avoir encore des mutations d'une scène à l'autre, d'un acte à l'autre. Et cette mutation, cette transformation du texte, c'est une constante dans le texte de Sihanouk, avant même le jeu des répétitions, avant même que le texte passe, comme l'a dit Joël, au tamis de la mise en scène. L'image suivante, que j'espérais un petit peu plus colorée et un petit peu plus visible, et je ne sais pas si on voit tout, montre justement cette transformation, cette mutation constante des scènes, des actes, etc. Ces pages de couleurs, ce sont en fait les chevilles des manuscrits des scènes. Donc chaque scène est enveloppée dans une chemise de couleurs différentes. Vous voyez 6, 5, 7 qui devient 5, etc. Ces plans se transforment. Si on regarde les mentions manuscrites écrite sur ces feuillets, on peut lire, mais faites-moi confiance, bonne version ou version périmée, à placer en scène 5, point d'interrogation, passer à la fin de scène, à refaire presque entièrement, ou à refaire en ramenant à une page et demie. Donc il y a vraiment une condensation dès le moment de l'écriture et qui est constante tout au long de l'écriture. Comme le dit Hélène de manière évidemment beaucoup plus poétique, des scènes s'évaporent, d'autres accourent. Et ce travail-là, il existe tout au long de la rédaction du texte. Mais il va prendre évidemment une ampleur différente avec le mécanisme de la mise en scène. L'image suivante. Alors c'est une image qui est enfin lisible parce qu'il y a peu de choses écrites dessus. C'est un moment important dans le manuscrit parce que évidemment c'est assez spectaculaire. Jusqu'à présent nous avions l'écriture d'Hélène Cixous et tout d'un coup dans la genèse du texte il y a l'écriture d'Ariane Mucheline. Alors ça c'est un moment qui est évidemment étonnant. C'est quand le metteur en scène intervient dans le texte. Il intervient comme un copiste. Ariane Mucheline copie le texte d'Hélène Cixous qui donc satisfait à la fois son auteur provisoirement, son auteur et son metteur en scène. Et cette copie manuscrite va lui permettre de donner le texte en fait au comédien, de le photocopier et donc de le distribuer. Et donc le jeu des répétitions va sans doute commencer à ce moment-là. Alors ce qu'on voit, là vous avez la page de titre de cette copie manuscrite de Darian Mouchkine, une copie en 5 actes de ce qu'elle appelle, de ce que l'auteur appelle la première ébauche, qui est en fait, qui correspond à peu près à la première époque, mais avec des multiples variantes, avec quelques scènes déjà de la seconde époque, et avec une longueur beaucoup, beaucoup plus grande. Première ébauche qui est donc en 5 actes, et dont vous voyez que le titre est encore provisoire, comme l'écrit Ariane Mouchkine, Une éternelle histoire ou le roi lépreux, c'est-à-dire que nous sommes encore du côté de la légende, le nom propre n'est pas de Sihanouk, de même peut-être que dans les personnages, on pensait qu'il allait être effacé, le nom propre de Sihanouk ne paraît pas encore, la légende n'a pas encore assumé la possibilité de transposer poétiquement l'histoire immédiate. Une fois copié, donc, le manuscrit, l'ébauche sera photocopiée, plusieurs fois corrigée, entrant dans le cycle des répétitions, donc c'est l'image suivante. Alors on voit toujours une chemise de la main d'Hélène Cixous, première version, dite ébauche, portant correction, automne 84. Donc c'est la première date, en fait, ce qui veut dire évidemment que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça s'est fait avant, donc au moins 6 mois d'écriture. Automne 84, et donc le voyage en Thaïlande aussi était avant. Donc, Et puis si vous regardez la copie donc, du feuillet fait par Ariane Mouchkine, vous voyez peut-être vaguement au crayon acte 1, scène 1, c'est de l'écriture d'Hélène, et les chiffres 9-10 indiquent que nous sommes déjà à la page au feuillet 9-10, donc les 8 feuillets précédents ont déjà sauté, ont été supprimés. Comme le dit Hélène, l'écriture doit être d'une condensation violente et donc il y a une sorte de restriction d'assaise qui commence déjà à ce moment-là. Nous avons donc fini en quelque sorte avec la première époque. Maintenant, c'est le travail du metteur en scène, le travail des acteurs et puis les va-et-vient, les interactions entre l'écriture du texte et le travail des acteurs. Il reste évidemment ce qui deviendra la deuxième époque et qui, au départ, est constitué d'une deuxième et d'une troisième partie. Là, vous voyez peut-être troisième partie, scène 13, et c'est la scène, en fait, la scène de rencontre, l'ultime scène de rencontre entre Sihanouk et Pol Pot, lorsque Phnom Penh va être pris. Alors, ce qui est évidemment très, très bouleversant quand on regarde le manuscrit de cette partie-là, c'est la partie du génocide, c'est la partie de la tragédie, c'est la partie impossible à écrire. Dans le très bel avant-propos du génocide effacé, Hélène se met en scène et elle dit « Comment puis-je raconter, rapporter, traduire en théâtre la chose stupéfiante de l'évacuation de Phnom Penh ? Je cherchais, comme Sophocle cherchait le porte-parole d'une douleur unique, je cherchais dans Shakespeare 700 000 personnes précipitées sur la route du néant, ces 700 000 hurlements, comment ? Comment ? C'est le manuscrit qui est une sorte de réponse à ce comment. Et là, on a un premier exemple qui est un détail, mais vous savez, dans l'histoire, le détail, c'est important. Et ça joue, en fait, comme métaphore du gigantesque travail qu'a fait Hélène Cixous de mise en perspective du génocide, de l'histoire du génocide et de ses protagonistes. Dans le manuscrit donc, de cette ultime rencontre entre Sihanouk et Pol Pot, il y a le manuscrit daté janvier 79, donc ça c'est des notes préparatoires, et puis il y a une coupure de presse, comme il y en a quelques-unes donc, dans le texte d'Hélène, un article de Paulin, un cambodgien, intitulé La diabolique douceur de Pol Pot, et qui explique la culture littéraire de Pol Pot, sa douceur, son goût de Verlaine et de la poésie bouddhique. Verlaine, on s'en souvient, c'est la citation erronée que le personnage de Pol Pot fait à Sihanouk du fameux vers « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme ». et il remplace le mot calme, enfin, l'adjectif calme, par pur. Pur, c'est la pureté terrible de l'encore. Et donc, c'est une toute petite citation, mais finalement, qui met en perspective tout un personnage et qui montre une sorte de captation, enfin de sublimation d'un simple article de journal. Donc ça, c'est vraiment pour un détail, mais un détail évidemment fondamental pour le personnage du Khmer Rouge, l'un exemple du travail poétique de transposition d'Hélène. Le deuxième exemple, ce sera l'ultime scène de Sihanouk, qui s'intitule dans cet état du texte qui n'est pas définitif, « Adieu Cambodge ». Alors si vous arrivez à lire, je ne sais pas, il y a une petite note, donc ça c'est aussi le travail du texte, c'est-à-dire il n'y a pas seulement le texte écrit de manière cursive, mais il y a toutes les notes préparatoires, thématiques, qui permettent de donner une sorte d'ambiance au texte. Une petite note qui dit « Avoir tant lutté, traversé les Khmers rouges, la forêt, la mort et la séparation, nuit, nuit, nuit. » Et puis ensuite, « Qui oserait dire l'an prochain à Phnom Penh ?» Ça, c'est la note, évidemment, c'est la note de l'exilé. Et ensuite, il y a plusieurs versions du chapitre de... Alors évidemment, ça serait mieux si on pouvait les lire, mais il faut vous faire confiance. La première version, c'est une version barrée, donc c'est un premier brouillon. C'est l'entretien, c'est l'adieu des derniers vivants aux morts qui restent, et les vivants partent vers l'exil des camps de réfugiés. Et puis la deuxième page, c'est une version plus avancée, plus aboutie, corrigée, on voit vaguement un petit peu de rouge, c'est donc les corrections qu'a apporté Hélène Cixous. Et ça se termine par un passage qui ne va pas être repris dans le texte définitif, et qui est « Aujourd'hui, dans le Cambodge captif, des millions de nos semblables, debout autour de leur immense tombe abandonnée, crient, 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 crient. Ils crient Cambodge, seulement cela, Cambodge. Chut, écoutez, chut. » Ce passage ne passera pas dans le texte joué par les acteurs, mais il nous fait nous rappeler d'un moment de Cixous d'une phrase de Cixous dans le génocide effacé dont je parlais tout à l'heure, comment dire ce qui est inimaginable. Cixous fait parler le théâtre en réponse à sa question, et le théâtre lui dit: on doit s'approcher de tant de cris avec un silence religieux, faire entendre les hurlements par le silence infini qui s'élève après les cris, laisser l'inimaginable rester l'inimaginable, ouvrir la scène à la venue spectrale du désastre qui va nous abolir. Donc on voit là une sorte d'écho direct de ce qu'Hélène dit ensuite, du cri, du silence et de l'impossibilité d'écrire cela. Enfin, la dernière image de cette genèse du texte, alors j'espère qu'elle est un petit peu plus claire, et elle montre aussi des dates. Donc première partie, tapée, j'ai mal fait ma photo, et retouche in extremis. Donc jusqu'au dernier moment des retouches. Là, c'est une retouche, donc on voit la dactylographie. Dernière version, fin première partie, retouche août 1985. Or, la pièce va être jouée, je crois, en septembre, en octobre 85. Donc, on est vraiment une extrémiste, là, la pièce va commencer. Et puis, on voit que cette retouche, elle concerne, en fait, un dialogue entre Sihanouk et Chou En Lai, et donc une sorte de leçon de réal politique de Chou En Lai. Et donc jusqu'au dernier moment, il y a cette sorte d'équilibrage des scènes et des retouches, et donc un travail énorme de l'auteur, avec évidemment les réactions de la mise en scène et des acteurs. Et donc ce travail énorme, il est aussi une façon de découvrir non seulement le processus d'écriture d'Hélène Cixous, mais aussi des passages complètement inédits, finalement, de la pièce. Alors, après la genèse du texte, on revient à la genèse de la suite de la représentation, donc au travail de Mouchkine.
Voilà. En fait, quand Marie-Odile et moi travaillons ensemble sur cette présentation, à quel point les archives s'imbriquent les unes dans les autres. Voilà, vous m'entendez?
Oui.
Et on voit comment finalement tout ce travail du texte, donc ce que fait Hélène Cixous, aussi est influencé par le travail sur le plateau. Le travail qui commence en fait avec les comédiens ce travail de répétition peut sembler très, très éphémère, très aérien, mais qui en réalité a lui aussi généré beaucoup de traces. On a une quinzaine de boîtes qui concernent le travail de répétition sur Sihanouk, qui sont aussi, dont plusieurs feuillets sont datés, ce qui permet aussi de les mettre en relation avec l'écriture du texte et ses différentes versions, et de voir qui est du texte ou du travail sur le plateau, donc influence ces retouches. Donc là, je vous ai pris en photo quelques pages donc des carnets de notes d'Ariel Mouchkine sur le travail sur le plateau, où l'on voit qu'il est beaucoup question donc du jeu des comédiens, du rythme, des réflexions aussi sur la place que une scène, une idée, une image peut prendre sur le plateau. Et surtout, nous avons aussi un relevé extrêmement détaillé de ce qui se passe au quotidien, grâce en fait aux notes prises par Sophie Moscoso, assistante donc sur cette mise en scène, comme sur de nombreuses autres du Théâtre du Soleil, et qui notait finalement, alors sur des feuillets qui sont séparés en deux, d'un côté ce qui se passe sur le plateau d'objectif, et de l'autre ce qui se dit autour de ce qui se passe en réalité sur le plateau. Et après, ce qui est très amusant, c'est de voir que parfois, il n'y a plus de notes coupées en deux, et que finalement, donc ce principe, même s'il est relativement bien respecté, et rend en fait, donne à l'imagination la possibilité de se rendre compte de ce qui se passait, on voit que c'est finalement cette distinction n'est pas toujours si simple à appliquer. C'est assez illisible là aussi, parce que c'est un peu petit, mais malgré tout, on voit quand même ce qui est les questions du jeu des acteurs, du rythme, de la place des personnages, des masques, des costumes, de tout ce travail qui se construit sur le plateau lui-même. Alors, Sophie Moscoso note ce qui se passe sur le plateau, note ce qui se dit dans la salle de répétition, mais elle prend aussi des photos. Et donc là, c'est aussi intéressant de voir comment les comédiens jouent dans les répétitions, quelles sont on a des traces, pas seulement écrites, mais aussi photographiques, de scènes qui évoluent, qui apparaissent, qui disparaissent, et aussi de l'évolution des costumes, en fait, que portent les comédiens et qu'ils se créent avec le soutien des costumières au fur et à mesure donc de l'évolution de leurs personnages. Donc là aussi, on a énormément de photographies qui documentent ce travail de création sur le plateau. Évidemment, la musique se crée par la même occasion. Alors, pour ce qui est de la musique, il faut distinguer donc les partitions de Jean-Jacques Lemaître que nous n'avons pas, d'un certain nombre d'ensembles de documents d'archives sonores qui en fait sont des résultats, les bandes son qui peuvent parfois être utilisées pour certains spectacles, mais surtout des enregistrements sonores qui sont faits ou au moment des répétitions ou au moment des représentations. Malheureusement, pour Sihanouk, on en a très peu, ce qui m'empêche de vraiment vous faire écouter cette musique. Néanmoins, nous avons pu en fait, la musique du spectacle a été éditée sur cassette audio au moment de la création du spectacle, et nous avons fait un travail avec le département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France à partir de cette cassette audio, puisqu'il ne restait pas suffisamment de bande son pour pouvoir partir d'un élément de master. Nous sommes partis de la cassette audio qui avait été diffusée à l'époque de la création du spectacle. Cette cassette audio a été numérisée, a été restaurée sous le contrôle de Jean-Jacques Lemaître et a abouti à la création du CD que vous avez dans la nouvelle édition du texte. Nous n'avons pas de partition, nous avons des archives sonores dans certains cas, mais très peu pour Sihanouk. Par contre, nous avons donc des photographies aussi de Jean-Jacques Lemaître en répétition, donc là ce sont des photographies de Sophie Moscoso, on en retrouvera par la suite de Michel Laurent. Et nous avons donc aussi des petites fiches, que là on ne voit pas bien du tout malheureusement non plus, mais là, c'est, je pourrais qu'on parle sur la qualité de mes photographies, des fiches qui ont été publiées aussi au moment de la création du spectacle. Et ce sont des boîtes de fiches où vous avez d'un côté le dessin de tous les instruments qui ont été utilisés pour la création du spectacle, donc des dessins qui ont été réalisés par Clémentine Yannick, et des commentaires sur déjà le nom de l'instrument, sur l'origine. Là, vous avez par exemple un tambour japonais et d'un côté, et un tambour qui est utilisé, un tambour européen, vraiment français, même en quelle mesure je vais le mettre de la part. Enfin, réalisé lui-même, mais ce n'est pas précisé sur l'affiche. Vous avez ce gong de kabuki japonais et ce gong en fer. Et vous avez donc pour chacun de ces instruments là, éventuellement des éléments de date de fabrication, de lieu de fabrication. On sait que le gong en fer a été fabriqué à Bagnolet, que tous les deux sont frappés par des maillotches. Aussi, au-delà de la technique de jeu, le moment où ces instruments sont joués pendant le spectacle, par exemple, on sait que le gong de kabuki est joué comme une ponctuation des Khmer rouges ou pour évoquer les bombes lointaines, ou le gong en fer au moment de l'entrée des Russes, ou de l'évacuation de Phnom Penh. Et nous avons aussi des indications qui permettent de savoir si ces instruments ont joué dans d'autres spectacles, et ce qui nous permet d'ailleurs de constater que nombre de ces instruments ont auparavant joué dans les Shakespeare. Donc nous avons aussi des éléments qui concernent la création de la musique. Alors après la musique, évidemment, là on rentre dans du très matériel. Ces questions très matérielles produisent aussi énormément d'archives matérielles. Donc on a aussi bien pour les représentations à la cartoucherie que pour toutes les représentations dans les tournées, de la documentation pour les matériaux et les machines, des factures, des bons de commande, mais aussi tous les documents possibles, des notes, des croquis de notes jusqu'au plan de construction de la scénographie. Et il faut donc, si vous savez que la scénographie a été conçue donc, par Louis-Claude François avec donc du bois, de la pierre, des briques, et que notamment ces fameuses briques qu'on voit, je pense, encore beaucoup dans la salle, c'est juste 40 000 briques qui ont été spécifiquement construites à la demande du Théâtre du Soleil par en fait un artisan qui a réouvert un four à bois pour recréer ces briques. Et vous avez des plans qui vous indiquent comment chaque brique rentre l'une dans l'autre pour créer les gradins, les marches, le plateau. Donc là aussi, il y a une documentation qui permet de comprendre comment cette scénographie se matérialise. On a aussi donc des étapes qui documentent la création des poupées qui étaient des éléments de décor du spectacle et qui ont été créées par Erhard Stiefel et des différents essais pour créer ces poupées. Là, c'est une photographie de Sophie Moscoso également. Donc toute cette création très matérielle du décor, la lumière, quoi de plus fugitif que la lumière, pour autant nous avons donc énormément de conduites techniques qui nous renseignent sur la façon dont aussi bien l'emplacement où devaient se trouver les techniciens pendant le spectacle, que ce soit à la cartoucherie ou en tournée, que la façon dont les lumières devaient arriver. Donc ça, ce sont des cahiers de conduite technique, c'est-à-dire que vous avez les techniciens qui les feuillettent au fur et à mesure de l'avancée du spectacle, ce qui explique les coins un peu noircis aux quatre coins, et on voit aussi, ce qu'on ne voit pas bien sur la photo, c'est qu'au petit coin droit, vous avez première époque, deuxième époque, donc tous les repérages nécessaires pour pouvoir, réplique par réplique, déclencher les éléments lumineux. Donc vous avez aussi des plans donc, extrêmement grands, précis, détaillé et très très abîmé qui en fait matérialise tous les éléments techniques nécessaires. Donc là vous avez sous les yeux en fait une implantation de projecteurs, les petites croix, et les chiffres qu'on ne voit pas très très bien, c'est la puissance en fait de ces projecteurs. Et si je vous les montre aussi, c'est pour en fait vous expliquer que toutes ces archives qui sont produites pour en fait créer et faire jouer les spectacles sont avant tout des documents de travail qui passent de main en main et qui finissent par être très fragiles et qui là est carrément devenu très difficile à consulter. Vous voyez les marques jaunes, en fait ce sont les pliures parce que ces plans étaient pliés sur du papier qui était extrêmement acide et conçu pour être photographié puisque les plans en fait resservaient pour chaque représentation ou pour chaque type d'implantation. Et donc le département des arts du spectacle a terminé la numérisation de ces plans et a entrepris de façon générale de numériser tous les documents extrêmement fragiles. Et donc ces documents sont désormais consultables de façon numérique à l'intérieur de nos salles de lecture. Voilà. Donc c'est une façon aussi de commencer à se servir des documents qui aujourd'hui ne seraient plus complètement manipulables. Alors évidemment, donc je passe rapidement, parce que le temps tourne, sur la conception et la réalisation de tous les éléments de diffusion des spectacles, les programmes, les affiches, les photographies du spectacle, bien sûr. Donc ici, des photographies de Michel Laurent. Nous avons un certain nombre de photographies des spectacles donnés à la Cartoucherie, mais aussi dans les tournées. Nous avons énormément de documents aussi concernant les tournées, donc sachant que le spectacle a tourné en Hollande, à Bruxelles, à Madrid, à Barcelone, à Edith. En fait, nous avons aussi la trace dans les archives des projets d'accueil qui n'ont éventuellement pas abouti, comme par exemple une proposition d'accueil qui avait été faite à Munich, qui n'a pas donné lieu en fait, à une tournée du spectacle à Munich. Si tenté, voilà, que forcément, juste à temps qu'éventuellement nous trouvions des archives qui nous donnent des informations plus précises. Après, donc là, on parle de la réalisation du spectacle, on parle des tournées qui sont déjà un premier élément qui intéresse ce qu'on appelle donc la réception du spectacle, hein, donc les pays où les spectacles à tourner et les réactions qu'il a pu occasionner. Donc évidemment, les premiers spectateurs sont souvent les critiques. Donc nous avons des revues de presse et des articles de presse. Un volume également assez considérable de la presse française, de la presse belge, de la presse anglaise, de la presse portugaise, espagnole, hongroise, allemande, de la presse néerlandaise, de la presse italienne, de la presse suédoise et de la presse israélienne. Donc vous voyez, on voit que le spectacle tourne dans un certain nombre de pays, mais que son écho va bien au-delà. Mais aussi les premiers spectateurs, ce sont les spectateurs comme vous et moi. Et nous avons aussi énormément de lettres de spectateurs ou d'associations qui écrivent au théâtre en fait pour faire part de leur émotion, de leur réaction, voire même de leur insatisfaction par rapport au théâtre. Donc là ici on ne voit pas très bien malheureusement non plus. Donc c'est la lettre d'une jeune élève hein, qui est venue avec sa classe hein, et qui en fait écrit pour dire ce qu'elle a ressenti pendant le spectacle. Donc c'est tout à fait aussi émouvant et intéressant de pouvoir voir le spectacle par les yeux d'un enfant. Mais il y a aussi donc parmi ces spectateurs des spectateurs tout à fait prestigieux.
Alors le document n'est pas non plus très très visible, très visible, enfin, la reproduction, mais on voit quand même l'en-tête. Donc, ce sont les lettres de Norodom Sihanouk après avoir vu le spectacle du Théâtre du Soleil. La lettre est adressée, donc ces lettres, ce courrier se trouve dans les archives d'Hélène Sixou du département des manuscrits. Le courrier du bas est adressé à la chère troupe du Théâtre du Soleil. Donc, c'est une lettre de remerciement. Les heures passées ensemble resteront dans ma mémoire et dans celle de la princesse comme un excellent et exaltant moment de notre séjour 1985 en France. Et puis il y a d'autres lettres, des lettres adressées à Hélène Sixou, et dans une lettre de 86, le roi du Cambodge écrit « Je suis très heureux pour vous que votre beau et très important spectacle ait bien marché, entre guillemets, à Paris, et en particulier que les deux derniers mois aient été fastes pour vous et pour votre troupe. » Donc une réaction parmi d'autres de Norodom Sihanouk. Alors, un autre envoi de Norodom Sihanouk qui figure également dans le fond Hélène Sixou. C'est un livret, c'est un recueil des chants, enfin des poésies chantées de Norodom Sihanouk avec une dédicace à Madame Hélène Sixou en tête de la page rector, de la page de couverture, signée Norodom Sihanouk. et la page de le verso de, du petit volume qui montre une photo de, du Cambodge avec deux buffles fait référence à un texte ou à, une chanson qui s'appelle Tragique Destin. Je trouve que c'est, ça s'imposait.
Alors, mais que fait-on de ces archives ensuite ? Avant tout, on continue à ouvrir des portes pour les chercheurs et qui veulent travailler et faire un matériau historique de ces archives, mais aussi pour les amateurs. Parce que le département déjà autrefois est extrêmement ouvert en fait à tout type de recherche. Et la première chose à faire, hein, quand on a des archives, eh bien, c'est de les inventorier. Et donc, nous mettons à la disposition de tous, en fait, sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, qui est spécifiquement consacré au fonds d'archives et aux manuscrits, d'une part, un inventaire du fonds Hélène Cixous, qui est réalisé par Marie-Odile, et un inventaire du fonds du Théâtre du Soleil, qui permet donc de pouvoir voir au fur et à mesure du classement des fonds d'archives ce que nous mettons à disposition des chercheurs. Plus largement, donc, nous avons une salle de lecture que, par le biais de travaux actuels de rénovation, nous partageons au département des manuscrits et des arts du spectacle ensemble, où nous communiquons ces documents. Nous donnons accès aussi aux archives sonores et audiovisuelles dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure, qui nécessitent une numérisation préalable à côté des documents papier. Nous donnons accès de façon numérique aux documents qui sont aujourd'hui trop fragiles pour être manipulés trop fréquemment, sachant que malgré tout, malgré les numérisations, on a vraiment besoin de voir les plans techniques et leurs échelles, alors bien entendu, on a accès aux documents originaux. Et on a en fait dans cet environnement aussi tout ce qui n'est pas fond du Théâtre du Soleil, mais qui peut aider à l'étude et à la recherche de ces archives, c'est-à-dire d'une part toutes les collections que le département des arts du spectacle constitue par ailleurs. Soit par lui-même en collectant par exemple de la presse et des programmes, soit en accueillant des archives d'autres artistes du spectacle qui ont pu travailler à un moment ou à un autre avec le Théâtre du Soleil et qui décident même de nous confier leurs archives, hein, ce qui nous permet vraiment en fait de croiser au fil du temps d'acquérir un ensemble vraiment représentatif du travail de chacun dans cette grande aventure collective que le Théâtre du Soleil. Nous avons bien sûr pour mission d'encourager la recherche, de faire venir les historiens pour qu'ils s'emparent de ces sources et de ces matériaux et qu'ils en écrivent, puisqu'ils seront de bons historiens des choses justes. Donc nous organisons bien évidemment des colloques et des journées d'études. Nous avons des programmes de recherche en partenariat avec les universités. Nous accueillons des chercheurs dans le cadre particulier qu'on appelle des chercheurs associés. Et nous présentons aussi ces collections à des étudiants de licence ou de master qui vont se lancer dans la recherche, qui vont devoir apprendre comment se servir de ces sources. Et donc nous intéressons aussi à la formation donc des futurs chercheurs auxquels nous donnons très régulièrement rendez-vous par ailleurs. Et on pourrait dire qu'on s'arrête là parce qu'on est à la Bibliothèque nationale de France, mais non, pas seulement, parce qu'on a aussi pour mission de faire découvrir ce patrimoine au plus grand public, et j'en terminerai là. Nous faisons bien évidemment des expositions, que ce soit à la Bibliothèque nationale de France ou avec des institutions en France et dans le monde entier. Et par exemple, nous aurons l'année prochaine au Centre national des archives de Seine à Moulins-sur-Allier, il y aura une grande exposition sur les Shakespeare, hein, où vous pourrez voir certains films de Shakespeare, du Théâtre du Soleil, qui seront présentés à cette occasion. Mais nous avons eu déjà l'occasion de présenter en fait des documents d'archives du Théâtre du Soleil, des éléments lors des journées du patrimoine et autres. Nous organisons des manifestations et des rencontres qui sont ouvertes au très grand public. Nous accueillons aussi des classes pour les sensibiliser au patrimoine des arts du spectacle. Et nous avons aussi quelques aventures éditoriales. Et donc là, nous avons été particulièrement fiers de pouvoir nous associer avec le Théâtre du Soleil et les éditions théâtrales pour réaliser le texte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette nouvelle édition du texte de la pièce, qui a été à cette occasion enrichi donc, par un CD de musique grâce au travail de restauration de la cassette audio, et, mais aussi en fait, de pouvoir y inclure. Donc, cette édition a fait l'objet d'une nouvelle préface écrite par Hélène Tixou, et en annexe, des comédiens du théâtre ont choisi de parmi les multiples boîtes de notes de répétition, de mettre en valeur un certain nombre de notes de répétition qui figurent dans les archives. Donc en consultant ces annexes, vous pouvez avoir un petit aperçu beaucoup plus visible que ce que je vous montre là de ce travail de répétition et de création du spectacle. Et le dernier, là, je termine vraiment là, le dernier usage, c'est franchement ce qui est pour nous, conservateurs d'archives, qui sont des archives en fait ouvertes et vivantes, c'est lorsque des comédiens, des metteurs en scène reviennent consulter et utiliser ces archives pour leurs nouvelles créations. Et donc, nous avons été très fiers lorsque Delphine Cotu est venu consulter toutes ces archives à la Bibliothèque nationale pour s'imprégner donc de toutes ces traces, de tous ces matériaux qui résultaient donc de la création de 85. Donc, et voir aussi un spectacle recréé toutes ces années après, c'est vrai que pour nous, c'est sûr que c'est une belle façon de montrer que ce patrimoine est vivant, se perpétue, se transmet et sert de source d'inspiration pour de nouvelles créations.
On voit que c'est un travail colossal d'écrivain, de maître en scène, d'acteur, mais aussi d'archiviste. Merci beaucoup. Je voudrais aussi signaler que les archives du spectacle actuel, la mise en scène de Georges Bigot et Delphine Cotu, sont actuellement au Théâtre du Soleil. Il y a deux personnes au Théâtre du Soleil qui montent un site de documentation du spectacle, de deux spectacles, qui est magnifique et qui est accessible actuellement. Et que ces archives vont être aussi transférées à partir de l'année prochaine à la BNF.